Il se tenait près de son bureau, désignant quelques enveloppes, du papier et un tas d'argent, et, très animé, discutait avec le gérant, Yakov Mikhaïlov, qui, debout à sa place ordinaire, entre la porte et le baromètre, les mains derrière le dos, remuait les doigts dans tous les sens avec rapidité. Plus papa s'animait, et plus rapidement s'agitaient les doigts du gérant. Par contre, quand papa se calmait, les doigts devenaient immobiles. Mais c'était surtout quand Yakov parlait que ses doigts reprenaient leur danse désespérée. Il semblait que le remuement des phalanges traduisît les pensées de Yakov. Son visage restait impassible, en conformité avec la dignité qu'il tenait de sa fonction, mais sans exclure un air de soumission qui convenait, de telle manière qu'il semblait dire à son maître « J'ai raison, mais vous êtes le maître, et ce sera comme vous voudrez. » En nous voyant, notre père se contenta de dire « Attendez, tout à l'heure !» Et il montra la porte, d'un geste de la tête, pour que l'un de nous voulût bien la fermer. « Mon Dieu, qu'as-tu donc aujourd'hui, Yakov ?» demanda mon père au gérant en haussant l'épaule selon son habitude. « Cette enveloppe avec 800 roubles !» Yakov prit le tableau, sur lequel des billes de bois enfilées sur du fil de fer représentaient son barème, marqua 800 et, le regard fixé sur un point vague, attendit la suite. « Pour dépenses de mon exploitation pendant mon absence. Tu comprends ?»« Pour le moulin. Tu as à recevoir 1000 roubles. »« Est-ce cela, oui ou non ?»« Tu dois reprendre le cautionnement au trésor, soit 8000 roubles. »« Et pour le foin, dont tu peux vendre, d'après ton estimation, 6000 pouds. »« En comptant à 45 copais le poud, tu as 3000 roubles à recevoir. »« Par conséquent... » « Combien as-tu d'argent en tout ?»« 12 000 roubles, n'est-ce pas ?»« C'est bien cela, » répondit Yakov. Mais le mouvement précipité des doigts du gérant indiquait qu'il avait une observation à placer. Notre père ne lui en laissa pas le temps. « De cet argent, tu enverras 10 000 roubles au conseil pour Prestovski. Et pour ce qui est de l'argent qui se trouve dans mon bureau ?» Tu me l'apporteras et le contrat comme dépensé à dater d'aujourd'hui. Quant à cette enveloppe et à cet argent qui sont ici, tu les remettras de ma part à l'adresse indiquée. J'étais près de la table et je vis la suscription sur l'enveloppe. Karl Ivanovitch Moer. Mon père, s'étant sans doute aperçu de mon indiscrétion, posa sa main sur mon épaule et me fit un geste pour me témoigner le désir qu'il avait de me voir m'écarter de la table. Je ne compris pas sur le champ s'il s'agissait d'une caresse ou d'une menace, mais je saisis la large main musculeuse qui s'était posée sur mon épaule, et je la baisai. « À vos ordres, » dit Yakov. « Qu'ordonnez-vous que je fasse de l'argent pour Khabarovska ?» C'était le village appartenant à notre mère. Laissez-le dans mon bureau et sous aucun prétexte, vous ne vous en servez sans ordre. Yakov observa le silence pendant quelques instants. Puis, soudain, ses doigts reprirent nerveusement leur sarabande. Son visage quitta l'expression d'obéissance passive qu'il avait d'habitude pour prendre les ordres de son maître et s'éclaira malicieusement. Il attira à lui le tableau de bois et dit Permettez-moi de vous faire savoir, Piotr Alexandrovitch, qu'il en sera comme vous voudrez. Mais payer à l'échéance l'argent du conseil, c'est impossible. Vous avez daigné dire, reprit-il après une pause, que l'on doit recevoir l'argent du cautionnement, du foin et du moulin. Il additionnait sur son tableau en faisant glisser les billes. Il poursuivit. « Je crains que nos prévisions ne nous trompent. » Il s'arrêta et regarda notre père d'un air significatif. « Et pourquoi ?»« Voilà, daignez juger. Pour le moulin, le meunier est déjà venu deux fois demander un délai. Il m'a juré sur Dieu et sur le Christ qu'il n'avait pas d'argent. D'ailleurs, il est ici. Ne voudriez-vous pas lui parler vous-même ? Que dit-il ? Demanda mon père, peu désireux de converser avec le meunier. Il dit qu'il n'a rien à moudre en ce moment et que l'argent qu'il avait en réserve a été dépensé pour les travaux de la digue. Et si nous donnons le moulin à un autre, en tirerons-nous davantage ? Quant au cautionnement, il me semble vous avoir déjà rapporté que notre argent est échoué là et que nous ne pourrons le ravoir de sitôt. Dernièrement encore, j'ai envoyé à la ville, chez Ivan Afanasitch, une charrette de farine et une lettre concernant cette affaire. Il m'a répondu qu'il serait très heureux de faire tout le possible pour Pior Alexandrovitch, mais que l'affaire n'était pas entre ses mains, et que, selon toutes les prévisions, il était douteux que nous puissions recevoir l'argent avant deux mois. Pour le foin, supposons que nous le vendions 3 000 roubles. Il marqua 3 000 et se tut, promenant son regard du barème à mon père, comme s'il eût voulu dire « Vous voyez vous-même que c'est peu. D'ailleurs, avec le foin, nous avons à craindre une diminution dans le prix, si nous voulons le vendre tout de suite. » Le gérant avait encore une grande provision d'arguments. Cela était visible. Mon père s'en aperçut et voulut couper court. « Je ne change rien à mes ordres, mais s'il y a des retards dans les rentrées, tu prendras sur l'argent de Khabarovka ce qui sera nécessaire. » « À vos ordres. » Le visage et les doigts de Yakov indiquèrent clairement que ce dernier ordre de son maître lui était très agréable. Yakov était un serf dévoué et actif. Comme tout bon gérant, il était avare à l'excès des biens de son maître et s'était fait une étrange morale quand il s'agissait de ceci. Son éternel souci était l'accroissement des propriétés de son maître au préjudice de celles de sa maîtresse. Il ne cessait de démontrer la nécessité d'employer tout le revenu de ma mère au profit du village de Petrovskoye où nous vivions. Après nous avoir embrassés, notre père nous dit que c'était assez nous reposer à la campagne, que nous n'étions plus des petits-enfants et qu'il était temps de commencer des études sérieuses. Vous savez déjà, je pense, que je vous emmène à Moscou. Vous demeurerez chez votre grand-mère et votre maman restera ici, avec les petites filles. Vous pensez bien que sa seule consolation sera de savoir que vous étudiez bien et qu'on est content de vous. Malgré que nous eussions, depuis quelques jours, remarqué des préparatifs qui présageaient quelque chose d'insolite, cette nouvelle nous donna un coup terrible. Volodia rougit et, d'une voix tremblante, fit la commission que nous avait donnée notre mère. « Voilà mon rêve, pensais-je. Dieu veuille qu'il n'arrive rien de pire, encore. » Je regrettais amèrement ma bonne maman, mais la pensée que l'on me traitait en grand garçon me réjouissait. Si nous partons aujourd'hui, il est probable qu'il n'y aura pas d'études. Oh, tant mieux. Cependant, je regrette Karl Ivanovitch. On le congédiera sans doute. Sans cela, on n'eût pas préparé pour lui cet argent et cette enveloppe. Ah, mieux eût valu étudier toute ma vie et ne pas abandonner ma mère et ne pas priver le pauvre Ivanovitch. Il est déjà assez malheureux sans cela. Ces pensées passaient dans ma tête. Je ne bougeais pas de ma place et je considérais fixement les bouffettes noires de mes souliers. Après avoir adressé quelques paroles à Karl Ivanovitch à propos de la baisse du baromètre et recommandé à Yakov de ne pas donner à manger aux chiens pour qu'après le dîner on pût aller à la chasse, notre père, contrairement à mon attente, nous renvoya à l'étude. Mais, toutefois, nous promit de nous emmener avec lui à la chasse. en nous rendant à la salle d'études, je passai par la terrasse. Couchée sur le seuil, la chienne préférée de mon père, Milka, se chauffait au soleil. « Milotchka, dis-je, en la caressant et en baisant son museau. Nous partons aujourd'hui. Adieu. Nous ne nous verrons plus jamais. » Et je fondis en larmes.